RFI 8h à Paris, 9h à Khartoum, 7h en temps universel.
Andréane Mélard.
L'heure de retrouver Alban Le Prince pour le journal à la une. Alban, le Gaza Project.
Une enquête collaborative menée par une douzaine de médias, dont RFI. Aujourd'hui et demain, on va se pencher, analyser et décrypter les menaces qui pèsent sur les journalistes à Gaza en temps de guerre. C'est votre dossier dans un instant. Le Monde réuni ce matin à Paris pour soutenir l'Ukraine. Une trentaine de dirigeants ont rendez-vous au sommet de la coalition des volontaires. Objectif, faire pression sur la Russie. Deux jours après l'annonce d'un accord par les États-Unis d'un cessez-le-feu en mer Noire. Au sommaire également, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, actuellement à Pékin. Il a rencontré son homologue chinois. Tous deux ont insisté sur la nécessité de maintenir les relations franco-chinoises. Et puis la saga continue aux États-Unis après la fuite de données militaires sur l'opération menée contre les rebelles houthis du Yémen. Les coordonnées de hauts conseillers de Donald Trump publiées sur Internet, la question de la sécurité du renseignement américain se pose pour les alliés de Washington.
Aujourd'hui et demain, le dossier du 8h de RFI est consacré au Gaza Project.
En français, le projet Gaza, une enquête collaborative menée par une quarantaine de journalistes et experts de 12 médias, dont RFI. Un travail encadré par le consortium Forbidden Stories. Cette enquête, elle s'est intéressée aux menaces qui pèsent sur les journalistes palestiniens qui couvrent la guerre dans la bande de Gaza. Près de 170 ont été tués depuis octobre 2023. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Avec Sami Bourlifa à Jérusalem, vous avez participé à cette enquête et ce matin vous nous racontez l'histoire de Fadi Al-Waridi. C'est un caméraman palestinien. Il a été grièvement blessé par balle alors qu'il faisait son travail.
Ah oui, nous sommes le 9 octobre dernier dans le nord de la bande de Gaza. Fadi Al-Waridi, 24 ans à l'époque, est le caméraman d'une équipe de la chaîne de télévision Al Jazeera. Ce sont donc des journalistes qui filment et documentent la fuite de civils palestiniens devant une offensive de l'armée israélienne. Soudain, tout bascule, ces détonations et ces cris que l'on entend proviennent d'une vidéo tournée par Fadi lui-même. Il se filme à bout de bras dans sa course effrénée pour tenter d'échapper aux tirs qui ont retenti. L'enregistrement s'arrête brutalement, le journaliste est fauché par une balle qui a pénétré son cou avant de ressortir entre deux vertèbres.
Ces instants, ils ont été minutieusement reconstitués par les médias ayant participé à cette enquête collective.
Oui, pour recueillir le témoignage de Fadi et de ses collègues, pour rassembler les images, comme la vidéo qu'on vient d'entendre, pour analyser notamment des données de géolocalisation. Ce travail a permis d'établir des faits incontestables. Notamment, Fadi portait un gilet siglé presse. Et avec ses collègues, il travaillait ce jour-là en dehors d'un secteur défini comme une zone de combat par l'armée israélienne elle-même. Il y a pourtant eu ce tir qui s'apparente à un tir de précision et qui a grièvement blessé Fadi Al-Waridi, que l'on écoute.
Ma moelle épinière a été sectionnée. À cause de cela, je suis paraplégique. Sans parler des différentes autres blessures sur tout mon corps. Je ressens en permanence des décharges électriques dans mes mains. Cette sensation ne me quitte pas. Elle m'empêche de dormir la nuit et parfois même le jour. Les antidouleurs que je prends ne font pas effet.
Nicolas, le caméraman grièvement blessé et handicapé, a ensuite été bloqué pendant de longs mois dans la bande de Gaza.
122 jours pour obtenir une évacuation médicale en Égypte. C'est une autre dimension de l'histoire de Fadi. Pendant des mois, l'armée israélienne refuse ce transfert officiellement demandé par une organisation de défense des droits humains. Refus répété de l'armée israélienne pour, je cite, « raison de sécurité sans autre explication et surtout sans justification aucune ».
Et cette enquête, vous pouvez la retrouver en détail sur rfi.fr pour découvrir comment des médias ont mis leurs moyens en commun pour documenter des attaques contre des journalistes palestiniens à Gaza. Il reste toutefois un point d'interrogation dans l'histoire de Fadi.
Oui, le caméraman a-t-il été touché par un tireur humain ou par un drone quadcoptère capable d'effectuer un tir de précision? À ce jour, aucune preuve matérielle n'est venue attester de l'utilisation de tels engins, mais tous les journalistes présents ce jour-là affirment que Fadi Al-Waridi a été touché par un drone israélien. Contacté dans le cadre de cette enquête, l'armée israélienne n'a pas répondu à nos questions sur ce cas.
Merci Nicolas. Rendez-vous demain même heure pour un autre volet du Gaza Project. Les Palestiniens visés par l'armée israélienne alors qu'ils tentaient de documenter les destructions à Gaza en les filmant à l'aide de drones. Et ce soir, rendez-vous dans Décryptage pour 20 minutes d'émission consacrée à cette enquête autour de Véronique Rigollet. RFI reçoit Laurent Richard, le directeur de Forbidden Stories, Sami Bourlifa, correspondant de RFI à Jérusalem. Et vous, Nicolas, à ce soir.
La Russie veut la guerre, c'est ce qu'a estimé hier soir Emmanuel Macron, à la veille d'un nouveau sommet sur l'Ukraine à Paris.
Et au lendemain de l'annonce par la Maison-Blanche d'un accord entre la Russie et l'Ukraine sur la fin des hostilités en mer Noire. Accord très fragile et soumis aux conditions du Kremlin. Alors en attendant un éventuel cessez-le-feu, la diplomatie se poursuit. Le président français qui a promis hier soir à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky 2 milliards d'euros d'aide militaire organise une nouvelle réunion en présence des dirigeants de 30 pays alliés de Kiev et de l'OTAN, Julien Chavanne.
Vladimir Poutine ne joue pas le jeu. Aux côtés de Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron a directement accusé le président russe de faire semblant de vouloir un cessez-le-feu.
La Russie continue de fait de frapper intensément le territoire ukrainien. Au total, là où vous avez su, monsieur le président, prendre le risque de la paix, à date, la Russie n'a apporté aucune réponse solide et par ses actes, elle a montré sa volonté de guerre et de continuer l'agression.
Pour cette troisième rencontre de la coalition des volontaires, comme l'appelle Emmanuel Macron, le président français veut avancer sur deux points. La force de réassurance qui sera chargée de contrôler un éventuel arrêt des combats et aussi sur les garanties de sécurité destinées à dissuader la Russie d'envahir à nouveau l'Ukraine, pourquoi pas des soldats sur place. La France va donner 2 milliards d'euros supplémentaires pour aider l'armée ukrainienne. Le président ukrainien lui en profite pour rappeler aux Américains et aux ce qu'il attend, un cessez-le-feu sans condition. Emmanuel Macron prévient, il est encore trop tôt pour parler d'une levée des sanctions contre la Russie. Vladimir Poutine ne dictera pas les conditions d'une paix durable. S'ils sont toujours hors jeu des discussions entre Washington et Moscou, les Européens gardent la pression sur la Russie, déterminés à ne pas céder aux exigences du Kremlin sans contrepartie.
Julien Chavanne.
Et face aux crises, face aux guerres qui secouent le monde, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, est à Pékin.
Il y a rencontré son homologue chinois pour discuter de la guerre en Ukraine, que Pékin n'a jamais formellement condamnée, mais aussi des tensions commerciales entre l'Union européenne et la Chine. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour.
Envoyée spéciale permanente de RFI en Chine, sans réelle surprise, les deux ministres ont insisté sur l'importance des relations franco-chinoises.
Oui, et dans un contexte international de plus en plus tendu, où les crises se multiplient et les risques d'escalade s'accentuent, ils ont tous les deux souligné la nécessité d'un dialogue régulier et constructif. Jean-Noël Barrot a rappelé que malgré leurs divergences, notamment sur les dossiers sensibles comme l'Ukraine ou la Corée du Nord, Paris et Pékin doivent continuer à dialoguer ensemble dans un cadre multilatéral. Le ministre français a également mis en avant l'émergence d'une nouvelle Europe, une Europe qui affirme son autonomie stratégique, qui investit massivement dans sa défense, dans sa sécurité énergétique et dans les technologies d'avenir. Une Europe résolue qui défendra ses intérêts et ses valeurs sans se laisser intimider. Autre sujet abordé, les tensions commerciales, en particulier le dossier du cognac que Jean-Noël Barrot a appelé à un règlement rapide de ce différend pour préserver la dynamique bilatérale, même si selon des sources diplomatiques, aucune avancée n'est attendue sur le sujet. Enfin, les deux parties ont évoqué les priorités communes pour l'avenir, le rééquilibrage de la relation économique et l'engagement face aux grands enjeux globaux comme le climat ou la santé, dans un contexte où les États-Unis se désengagent d'accords internationaux majeurs.
Merci Cléa Broadhurst, en direct de Pékin pour RFI et l'économie. Il en sera question demain pour Jean-Noël Barrot. Il doit se rendre à Shanghai pour inaugurer une usine de production d'hydrogène construite par le groupe français Air Liquide et participer à un forum d'affaires franco-chinois.
Les relations commerciales qui se rafraîchissent encore un peu plus entre la Chine et les États-Unis, mais pas seulement.
Oui, après s'être attaqué à l'acier, à l'aluminium, Donald Trump vient d'annoncer de nouveaux droits de douane de 25% pour toutes les voitures qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Réaction immédiate à l'ouverture des bourses asiatiques avec la chute des titres des géants Toyota, Nissan, Honda ou encore Hyundai. Et gare à une riposte coordonnée du Canada et de l'Union européenne. S'ils se coordonnent justement, Donald Trump promet ce matin des droits de douane, je cite, à grande échelle, bien plus importants que ceux actuellement prévus.
Donald Trump qui dénonce une chasse aux sorcières.
Alors que la pression monte contre le chef du Pentagone après qu'un journaliste du magazine The Atlantic a été inclus par erreur dans un groupe de discussion ultra confidentiel dans lequel il était question des frappes menées contre les Houthis du Yémen. De nouvelles révélations s'ajoutent à cette faille spectaculaire. Le magazine allemand Der Spiegel affirme désormais que les coordonnées privées de hauts conseillers en matière de sécurité de Donald Trump sont accessibles sur Internet, ce qui interroge évidemment les plus proches alliés de Washington. Les précisions de la correspondante de RFI à Londres, Emeline Vint.
Le gouvernement britannique l'assure, les États-Unis restent le plus proche allié du Royaume-Uni et les échanges de renseignements sont toujours sécurisés. Quelques heures plus tôt, des élus de l'opposition avaient appelé les autorités à revoir les accords bilatéraux pour protéger le renseignement et in fine l'armée britannique. Un membre du comité parlementaire en charge de la défense dénonce le manque de bon sens élémentaire de la part des alliés américains, à savoir le respect des protocoles de sécurité. Le risque, c'est la mise en danger des troupes de Sa Majesté puisque les armées britanniques et américaines collaborent sur le terrain. Dans le cas du Yémen, la Royal Air Force a contribué à l'approvisionnement du porte-avions d'où les frappes ont été lancées. L'exécutif tient à rassurer les Britanniques. Le Royaume-Uni ne communique les informations classifiées que par l'intermédiaire de plateformes internes sécurisées. Quant aux commentaires du vice-président J.D. Vance sur ses partenaires européens, Londres, qui espère toujours une exemption des droits de douane, refuse catégoriquement de rétorquer. Emeline Vint, Londres, RFI.
Après les manifestations d'ampleur, les applaudissements, les klaxons et les drapeaux aux fenêtres à 20h30.
C'est la nouvelle méthode de contestation adoptée par le CHP, la principale force d'opposition turque, une semaine après l'arrestation du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, rival du président Recep Tayyip Erdogan, et l'interpellation de plus de 1400 personnes. 172 ont été placées en détention à Istanbul. 3 des 7 journalistes incarcérés ont quant à eux été libérés ce matin, dont Yassin Akgul, le photographe de l'AFP qui était accusé d'avoir participé à une manifestation interdite.
RFI 9h11 à Khartoum au Soudan et après le palais présidentiel autour de l'aéroport.
L'armée menée par le général Al-Burhan reprend du terrain dans la capitale hier soir. Le chef de l'armée a revendiqué la libération de Khartoum. Wely Diallo, cette reprise est le point culminant de la reconquête.
Une avancée significative, donc un nouveau revers pour les hommes du général Daglo, dit Emeti, dont l'empreinte dans la capitale se réduit de jour en jour. Selon l'anthropologue Clément Desailles, on assiste à l'aboutissement d'une offensive débutée depuis septembre.
Ces derniers jours, le temps s'est un petit peu accéléré puisque l'armée avait réussi à reconquérir le centre-ville de Khartoum qui était tenu depuis le début du conflit par les forces de soutien rapide. Et ce qui se déroule aujourd'hui a l'air d'être une fuite complète des RSF de la ville de Khartoum.
Le succès de cette offensive, l'armée du général Al-Burhan la doit aussi aux milices venues grossir ses rangs depuis le début du conflit. Une réorganisation de l'armée qui, toujours selon Clément Desailles, aurait permis de renverser le conflit.
En fait, l'armée a eu recours à ce qu'ils ont toujours fait avant, c'est-à-dire que l'armée existe, elle a des forces, mais à côté des forces, on utilise des proxys, des paramilitaires, des forces miliciennes diverses pour mener les offensives. Tout un agrégat de forces qui se sont alliées et qui soutiennent l'effort de guerre. Donc c'est quelque chose qui est assez inquiétant, parce que tout le monde a recours aux milices, tout le monde a recours à des proxys qu'ils arment, qui sont relativement autonomes et voilà, qui sont relativement peu contrôlables sur le long terme.
Selon l'armée soudanaise, les paramilitaires ont traversé le Nil Blanc mercredi soir, direction le Darfour, l'une des dernières régions toujours sous leur contrôle.
Wely Diallo.
La Corée du Sud fait toujours face aux incendies les plus destructeurs de son histoire.
Et le bilan est passé ce matin à 26 morts, plus de 35 000 hectares partis en fumée, 27 000 personnes évacuées en urgence. De la pluie est attendue en fin de journée, ce qui pourrait aider les pompiers dans leur lutte contre les feux.
En France, troisième et dernier jour de réquisition au procès du financement présumé libyen de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy.
Et c'est ce soir que l'on devrait connaître les peines demandées par le parquet financier à l'encontre de l'ancien président et des 11 autres prévenus, dont 3 ex-ministres. Depuis mardi, les magistrats ont pointé le rôle de Nicolas Sarkozy, véritable décisionnaire et commanditaire d'un pacte de corruption. Baptiste Coulon.
De l'argent liquide non déclaré est distribué aux salariés de la campagne en guise de gratification. C'est la découverte des enquêteurs au début de l'affaire. Au cœur de ce volet, Eric Woerth, le trésorier de la campagne de 2007. C'est lui qui réceptionne cet argent dans des enveloppes car elles proviennent de dons anonymes d'après son récit à la barre mi-février. Dans son réquisitoire, le magistrat pointe une des incohérences. Pourquoi reçoit-il, lui, les enveloppes alors qu'il existe un service de réception du courrier au parti ? Le procureur fustige l'incapacité d'Eric Woerth à donner une explication cohérente sur l'origine de ces espèces. L'origine et le montant, estimé à 30 000 euros d'après le trésorier, 8 fois plus selon l'accusation qui pointe un autre indice troublant, un coffre-fort loué par Claude Guéant dans une banque parisienne. Coffre-fort dont il a peiné à justifier l'intérêt, note le procureur, qui rappelle aussi que c'est Claude Guéant qui aurait réceptionné plusieurs valises d'argent du régime Kadhafi. Un énième volet de l'affaire qui alimente le faisceau d'indices d'un pacte de corruption, conclut le magistrat.
Baptiste Coulon.
Alban Le Prince pour le journal sur RFI. Merci beaucoup, 8h15 à Paris. la une de la presse internationale, Frédéric Couteau, la coalition des volontaires.
La coalition des volontaires pointe le monde à Paris. C'est le nom de l'initiative franco-britannique qui doit réunir aujourd'hui une trentaine de pays alliés prêts à aider davantage l'Ukraine et à sécuriser un éventuel cessez-le-feu entre Kiev et Moscou, alors que l'administration Trump a engagé de laborieuses négociations avec la Russie sans les Européens. Le quotidien ukrainien Kyiv Independent s'interroge. L'Europe et la France, en tant que l'un de ses leaders, peuvent-elles maintenir Kiev à flot alors que les États-Unis se retirent? À l'heure actuelle, les efforts diplomatiques déployés par Emmanuel Macron n'ont pas encore porté leurs fruits, le continent n'étant pas en mesure d'élaborer un plan concret sur le réarmement, les forces de maintien de la paix en Ukraine et une position unifiée à l'égard des États-Unis de plus en plus agressifs pour tenir les nombreuses promesses faites à l'Ukraine et à d'autres États européens et révolutionner la défense européenne avant les élections présidentielles françaises de 2027. Emmanuel Macron pointe encore le quotidien ukrainien devra mobiliser encore les volontés et trouver plus de financement.
Le New York Times renchérit, on ne sait toujours pas qui est prêt à faire quoi dans cette coalition.
Oui, surtout à un moment où la faible croissance et la dette élevée compliquent l'équation pour les pays européens qui essaient de dépenser plus pour leurs armées. Le plus grand point d'interrogation réside dans l'idée d'une éventuelle force de réassurance constituée de troupes européennes qui seraient stationnées en Ukraine une fois le conflit terminé afin d'empêcher la Russie de répéter son invasion de 2022. La Grande-Bretagne et la France ont lancé l'idée, mais jusqu'à présent, aucun autre pays n'a annoncé vouloir engager de troupes dans une telle force qui reste largement à définir, donc, et que la Russie a qualifié d'inacceptable.
Exemple de cette incertitude, en Espagne, le Parlement traîne des pieds pour augmenter les dépenses en matière de défense.
Oui, c'est ce que déplore El País à Madrid. Avec une guerre aux portes de l'Europe qui dure déjà depuis 3 ans, la menace expansionniste de la Russie d'envahir l'Ukraine et le virage anti-européen de la Maison-Blanche, il faut parvenir à des accords entre les parties. Nous avons besoin de clarté dans l'incertitude et d'une classe politique entière à la hauteur du défi.
Et pour le Times, à Londres, l'Europe est dans une situation difficile avec un accord de paix bâclé voulu par les États-Unis.
Le Times qui lance cet avertissement. Nous, Européens, Britanniques, Ukrainiens et tous les autres, sommes désormais tous dans le même bateau, mal équipés et mal approvisionnés, ballottés entre Washington et Moscou. Les vœux pieux l'emportent souvent sur le réalisme, mais à mesure que la prise de conscience de notre situation critique se fait jour, la révolte se profile, confrontée au choix entre un rapprochement lucratif avec la Russie, mené par les États-Unis, et la confrontation périlleuse qu'implique le maintien de la loyauté envers l'Ukraine, de nombreux pays pourraient privilégier la sécurité à l'honneur, à long terme, soupire le Times, ils perdront les deux.
Et enfin, dans une tribune publiée par Die Welt à Berlin, l'ancien champion du monde d'échecs et opposant notoire à Poutine, Garry Kasparov, estime que l'Europe doit être prête à faire la guerre.
Oui, Kasparov formule plusieurs exigences en direction des chefs d'État européens, former un bloc de défense européen totalement indépendant, une OTAN parallèle qui pourrait fonctionner sans le leadership mondial des États-Unis, exclure immédiatement la Hongrie du droit de vote et de l'aide financière de l'Union européenne, mettre fin à l'exportation de pétrole russe via des flottes fantômes ou encore introduire la conscription pour le recrutement militaire.
Merci Frédéric Couteau, c'était la revue de presse internationale sur RFI. Kiev en rêvait comme monnaie d'échange pour d'éventuelles négociations de paix. Pourtant, aujourd'hui, il ne lui reste plus grand-chose du terrain conquis en Russie. Plus de 7 mois après la spectaculaire incursion de l'armée ukrainienne dans la région russe de Koursk, elle a débuté en août 2024, la Russie a quasiment reconquis la totalité de ses terres. Ces derniers mois, cette zone rurale a connu des combats acharnés. Notre envoyée spéciale permanente en Russie, Anissa El-Jabri, a pu se rendre sur place, plus précisément dans la ville de Soudja, et son agglomération à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne. Reportage.
Sur le bas-côté, quelques corps de vaches et de cochons morts, des chars calcinés et dans les champs imposantes, des mines anti-tank. Les derniers tronçons de la route de Koursk à l'approche de Soudja portent encore les stigmates des combats.
Aujourd'hui est un bon jour pour travailler à peu près tranquillement. Comme il y a un vent très fort, les drones ne peuvent pas voler aussi vite et aussi près que d'habitude. Et ils ont besoin de plus de temps pour viser et tirer. Et comme c'est aussi un jour très clair, pour nous c'est aussi plus facile de les voir venir et de les abattre.
Au volant de la voiture des forces russes du groupe tchétchène Armat, l'imam de Koursk, Issa. Encore une journée où il vient procéder avec ses hommes à des évacuations de civils rescapés des combats. Les Russes ont repris pied sur leur terre, mais chaque trajet reste dangereux. Dans la voiture, l'alarme qui signale la présence de drones se fait insistante. Dans cette zone, les véhicules sont tous équipés d'antennes pour les détecter. Les soldats, cartouches spéciales en bandoulière, tous équipés de fusils pour les abattre, comme Islam.
Le détecteur est en train de nous signaler que nous sommes observés du ciel, qu'un drone se rapproche. À ce stade, il est probablement à environ 1 ou 2 kilomètres de nous. C'est une distance très dangereuse. Les drones sont rapides, mais ce n'est peut-être pas forcément un engin d'attaque, mais peut-être juste un drone de reconnaissance.
Le bip finit par s'éteindre, la tension redescendre. À une poignée de kilomètres de Soudja, soudain sur les côtés, d'immenses piliers en bois et des hommes qui s'affairent.
Ils ont commencé ça il y a à peine 2-3 jours. Ils installent des poteaux en bois, un filet entre les deux côtés et recouvrent entièrement la route. Ça va ressembler à un corridor entièrement fermé par le haut pour qu'un drone ne puisse pas le franchir. Bien sûr, un drone peut larguer une charge et déchirer le filet, mais ça reste une aide, je dirais 70% du temps. Ça sauve quand même des vies.
Dans Soudja, au détour d'une rue, quelques corps sans vie de soldats ukrainiens, des poules, des chats, des chiens qui errent. L'odeur de brûlé des bâtiments incendiés par endroits prend encore à la gorge. Le nombre de bâtiments épargnés est infime. Périodiquement, le son des combats qui se déroulent à plusieurs kilomètres se fait plus précis. En quad ou en camion ou tout simplement au pas de course, on croise des soldats d'infanterie. Stigmate de la guérilla urbaine qui s'est déroulée ici, des cratères de bombardements, les ponts des routes de ravitaillement sont détruits. On les franchit désormais à pied sur des barrières de fortune entremêlées au-dessus de l'eau. L'imam Issa, lui, n'imagine pas la ville redevenir vivable avant au moins un an. Anissel Jabri, Soudja, RFI.
Anissel Jabri qui est avec nous justement ce matin. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Avec nous donc pour décrire les coulisses de ce qu'on vient d'entendre, Anissa, d'abord vous nous dites que ça n'a pas été simple de tourner ce reportage.
Alors d'abord, on n'accède pas facilement à ces villages et encore moins à Soudja. Il faut une autorisation officielle spéciale déjà pour toute la région de Kursk parce qu'elle est, depuis cet été, toujours sous régime dit antiterroriste. Et ensuite, il faut une autre autorisation, être accompagné. La zone qui a été en proie aux combats les plus violents est toujours interdite aux civils. Alors pour ce reportage, ce sont les forces tchétchènes du groupe russe Armat qui nous ont emmenés. Une partie de leurs soldats se bat aujourd'hui encore dans les villages de Belgorod, dans la région voisine, puisque l'armée ukrainienne y a relancé une attaque. Et puis l'autre, elle procède en parallèle et en coopération avec les autorités aux décomptes et aux évacuations de civils. Vous vous en souvenez peut-être, l'incursion de l'armée ukrainienne en août dernier avait créé la surprise. Certains habitants pris sous le feu n'ont pas tous pu partir et certains sont aujourd'hui encore portés disparus. D'autres, surtout les plus âgés, s'accrochent encore à leur maison.
Certains s'accrochent, Anissa, mais il ne reste plus grand monde quand même à Soudja et dans les villages alentours.
J'ai parcouru au total 7 villages autour de Soudja. Ils sont aujourd'hui quasiment déserts. Il y a des vélos abandonnés en pleine rue, des portails mitraillés, des toits détruits. Et puis les plus âgés qui restent sont rares, une poignée. Ils sont souvent suppliés par leurs familles réfugiées ailleurs, à l'intérieur des terres, de quitter les lieux. J'ai vu des secouristes venir frapper à leurs portes, leur montrer des vidéos de leurs proches, leur demandant de les rejoindre. Et puis j'ai aussi rencontré une babouchka coupée du monde depuis l'été dernier. Mais avec l'électricité du générateur installé par les soldats, voici ce qu'elle nous raconte de comment elle a vécu ces derniers mois.
J'ai 87 ans, je suis née le 18 mars, en 1938. Je suis seule ici. Avant l'attaque, j'avais mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants ici. Quand ils ont appris que les Ukrainiens arrivaient, ils ont pris les petits et sont partis. Mon fils est venu me chercher. Je lui ai dit « Sacha, je ne vais nulle part. Je resterai à la maison jusqu'à la fin. Je m'en fiche. » C'était le 7 août. Et maintenant, cela fait presque 8 mois. Les Ukrainiens nous ont nourris, ils nous ont même apporté des médicaments. Et maintenant, les forces Armat sont là pour le faire. Sinon, je suis toute seule, au milieu de nulle part. Pourquoi devrais-je aller vagabonder ailleurs en Russie? Personne ne m'a maltraitée, personne ne m'a fait de mal depuis le premier jour. Mais les bombardements étaient très intenses, très effrayants. La maison a tremblé tout le temps, pendant 7 mois. Et moi, je ne sais plus rien du tout depuis le 7 août. Quand la guerre finira-t-elle? On ne sait rien ici. Il n'y a pas de réseau. Oh, je souhaite tellement qu'il y ait une trêve. Tout le monde souffre, les jeunes comme les vieux. Mais la jeunesse, je plains tellement la jeunesse.
En toute première ligne comme cette grand-mère ou bien plus éloignée à des milliers de kilomètres à l'intérieur du territoire, ils sont nombreux, les Russes aujourd'hui informés ou non des pourparlers, à avoir encore bien du mal à croire que la guerre puisse s'arrêter, même le temps d'une trêve de 30 jours.
Anissa El Jabri, merci beaucoup à vous et sachez que ce reportage à Soudja est à retrouver avec beaucoup plus de détails et des photos aussi sur notre site RFI.fr. Demain, à la même heure, nous appellerons Emmanuel Chaz, notre correspondante en Ukraine, qui nous parlera de la situation dans la même zone, mais de l'autre côté de la frontière. Notre question d'environnement ce matin, on parle des minerais très convoités et présents en nombre dans les fonds marins, cobalt, nickel. Seulement voilà, leur exploitation est porteuse de risques importants. On en parle ce matin alors qu'une réunion du Conseil de l'Autorité internationale des fonds marins se tient jusqu'à demain en Jamaïque et qu'il est question d'un code minier des fonds marins. En effet, on le disait, l'appétit de ces ressources sous-marines et leur exploitation fait peser des risques et pose question notamment pour la protection du patrimoine culturel des océans, Pauline Glaise.
Oui, car les océans, eux aussi, abritent un héritage culturel. Des épaves, des objets anciens tombés de bateaux, des navires coulés et des avions abattus pendant les deux guerres mondiales, par exemple. Le fond de l'Atlantique conserve aussi les traces de siècles de traite des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique. Or, si scientifiques ONG alertent depuis longtemps sur les risques que ferait peser l'exploitation minière sur les écosystèmes, le patrimoine culturel est moins souvent mis en avant. Pourtant, aux yeux du représentant du Maroc à l'AIFM, la protection du patrimoine culturel sous-marin doit être une priorité égale à la protection de la biodiversité marine, car il est la mémoire vivante des générations passées. Cette semaine, les représentants de peuples autochtones ont aussi plaidé pour que leur héritage soit reconnu. Il y a eu des avancées, estime Sabine Route-Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer.
Il est prévu que les entreprises qui iraient exploiter ces grands fonds marins devraient notifier l'autorité internationale des fonds marins en cas de découverte de restes humains, d'objets ou de sites archéologiques. Si l'entreprise trouve, elle doit immédiatement stopper toute son activité. Alors évidemment, l'inquiétude des peuples autochtones comme des organisations de la société civile comme la Fondation de la Mer, c'est que tout ça, ça va se passer à des milliers de kilomètres des côtes, à des milliers de kilomètres de profondeur, et que la surveillance des activités proprement dites de ces entreprises va être extrêmement compliquée à mettre en œuvre.
Ce point a donc été discuté en Conseil. Cela devrait être rediscuté en juillet quand le Conseil et l'Assemblée Générale de l'AIFM seront convoqués.
Pas encore acté, sans doute pas facile à vérifier, mais ce patrimoine matériel n'est sans doute pas le plus difficile à prendre en compte.
Plusieurs États ont proposé que la protection soit accordée au patrimoine matériel, certes, et aussi au patrimoine immatériel.
C'est demandé par toute une série d'îles du Pacifique notamment. La Polynésie française a un rapport très fort avec l'océan. On appelle ça le mana, c'est l'esprit de l'océan qui fait partie de la culture polynésienne et de nombreux peuples du Pacifique. Maintenant, il faut aussi reconnaître que les projets d'exploitation des grands fonds marins sont venus d'une île du Pacifique qui s'appelle Nauru.
Nauru qui espère faire entrer des devises par ce biais. Alors la protection de l'aspect sacré de cet environnement marin pourrait s'avérer plus difficile à mettre en place. Andréane, un groupe de travail mené par la Micronésie demande la création d'un comité spécial pour assister le conseil de l'AIFM dans sa décision sur un plan d'exploitation d'une zone sous-marine.
Merci Pauline Glaise. Dès lundi prochain, ce sera Florent Guignard qui viendra chaque matin répondre à notre question d'environnement du lundi au jeudi. Restez bien à l'écoute d'RFI dans une minute. Le journal, on se retrouve juste après pour l'infosport. On va parler foot et qualification pour la Coupe du Monde. Restez avec nous.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Le 7 octobre 2023, Dror Michani était en France lorsqu'il a appris les attaques en Israël.
De retour dans son pays, il a consigné ses réflexions sur ce conflit sans fin. Un témoignage intitulé « Au ras du sol », journal d'un écrivain en temps de guerre, dont il viendra parler en français dans l'émission.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.